Radio Okapi.
Le journal Noëlla Luzitu Kabambi.
Pillage des vivres du programme alimentaire mondial dans ses entrepôts à Goma, le PAM Nord qui vous condamne fermement ces actes qui entraînent des conséquences négatives pour les personnes vulnérables en cette période de guerre. Des précisions dans ce journal du chargé de communication du PAM Nord Kivu. Un conflit foncier divise la ville de Kikwit et le territoire de Bulungu dans la province du Kwilu. À la base de ce conflit, l'expansion de la ville de Kikwit entraînait un dépassement de ses limites vers le territoire de Bulungu. Le chef de division provinciale de l'intérieur et sécurité appelle les autorités de deux entités au calme en attendant de résoudre ce problème avec les experts nationaux. Jean-Jacques Wondo, homme libre, l'expert militaire belgo-congolais a été relaxé hier mardi par la justice militaire. Il était poursuivi par la justice militaire pour participation présumée à la tentative de coup d'État manquée le 19 mai à Kinshasa. Son avocat Carlos Nguapichi est l'invité de ce journal. Bonjour à tous. De nombreuses personnes vulnérables au Kivu risquent de ne pas accéder à l'assistance alimentaire dans la province du Nord Kivu. C'est la conséquence du pillage des entrepôts du programme alimentaire mondial PAM à Goma. Cet organisme des Nations Unies a, à travers un communiqué rendu public hier, condamné ces agissements d'une partie de la population qui a vidé plusieurs tonnes de ses stocks alimentaires. Le chargé de communication du PAM au Nord Kivu rappelle que l'assistance alimentaire du PAM RDC contribue à prévenir et à répondre de manière adéquate aux besoins de protection de nombreux enfants, des femmes et des hommes dans le besoin. Claude Kalinga est joint par Ronéline Tibonera.
Les stocks dérobés comprenaient des denrées vitales telles que de la farine de maïs, des petits pois, de l'huile végétale, du sel iodé, des haricots, des biscuits énergétiques ainsi que des compléments nutritionnels cruciaux pour les enfants et les femmes enceintes ou allaitantes souffrant de malnutrition. Nous rappelons que ce pillage prive délibérément la population vulnérable de son droit fondamental à une alimentation adéquate. Chaque quantité de nourriture volée représente un repas en moins pour une famille qui en a le plus besoin. Nous rappelons également que les activités d'assistance alimentaire et de lutte contre l'insécurité alimentaire du PAM sont toujours menées dans le respect des principes humanitaires que sont l'humanité, la neutralité, l'impartialité et l'indépendance opérationnelle et sans aucune forme de discrimination. Le PAM continuera à apporter son assistance aux personnes vulnérables dès que les conditions sécuritaires le permettront. Pour le moment, il a temporairement suspendu ses opérations.
Toujours à Goma, au moins 7 cadres publics et acteurs des mouvements citoyens manquent à l'appel depuis plusieurs jours dans la ville. Parmi ces personnes, le coordonnateur provincial du programme de désarmement, démobilisation et réinsertion communautaire et stabilisation, ainsi que son conseiller principal. Ils ont disparu depuis le jeudi 30 janvier. Des sources parlent d'enlèvement par les combattants du 1-23 qui occupent la ville. Bernard Danyangi.
Clovis Mouniré, coordonnateur provincial du PDDRCS, et Thomas Dake Mouiti, son conseiller principal, auraient été interpellés par des présumés officiers de la rébellion du 1-23 jeudi 30 janvier dernier, alors qu'ils tentaient de traverser la frontière congolo-rwandaise pour aller s'exiler vers Beni, passant par le Rwanda et l'Ouganda, indiquent certaines sources sous couvert d'anonymat. Selon ces sources, les deux cadres publics seraient toujours en détention quelque part, mais leurs familles et collègues de service n'ont aucun contact avec eux. Il convient de mentionner que Thomas Dake Mouiti a été pendant plusieurs années président de la société civile du Nord Kivu et a été parmi ceux qui dénonçaient à l'époque le soutien présumé du Rwanda au M23. Certaines organisations de la société civile menacent d'organiser des manifestations pour faire pression, notamment sur les autorités rwandaises pour obtenir la libération de ces deux cadres. En plus de ces deux personnalités, nos sources parlent d'au moins 5 autres acteurs qui manquent à l'appel depuis quelques jours. Parmi ces derniers figurent David Mambo, un conseiller municipal de Goma et un conseiller à la cour d'appel de Goma, un artiste musicien et des autres activistes de mouvements citoyens. Elle pointe du doigt accusateur le 1-23 comme présumé kidnappeur de ces personnes.
Toujours en rapport avec la situation dans l'est du pays, l'association dénommée Bana Est, basée à Kinshasa, se félicite de la mobilisation de la population congolaise en faveur des FRDC et des populations victimes de la guerre dans la partie est du pays. Pour l'un des animateurs de cette association, Destin Kandundao, il est important que les fonds réunis en faveur des forces armées de la RDC et de la population soient bien canalisés. Il considère que cela devrait permettre de mettre en place des actions efficaces qui répondent aux besoins réels de la population pendant cette période aussi critique. Destin Kandundao est au micro de Ronéline Tibonera.
Nous avons jugé de faire cet appel en fait que ceux qui vont contribuer au Maniema, par exemple, ceux qui vont contribuer dans les Grands Katanga, ceux qui vont contribuer dans les Grands Équateurs, ceux qui vont contribuer partout ailleurs dans le pays, de voir comment mettre ensemble ces fonds, ce qui est destiné aux militaires, soit canalisé à partir du service des SECAS, et ce qui est destiné à la population, soit canalisé au service public du FPNCS, étant donné que ces deux structures, ce sont des structures qui sont mieux placées pour la question, et ce sont des structures également qui s'occupent de la vulnérabilité sociale et chez les militaires et chez la population civile congolaise.
Restons en Nord Kivu, dans le territoire de Beni, le village de Ngazi. Le village de Ngazi, à une cinquantaine de kilomètres de la ville de Beni, est complètement vidé de ses habitants depuis 4 jours, après une série d'attaques d'un groupe armé non encore identifié contre des positions de la milice Union des Patriotes pour la Libération du Congo, UPLC. La société civile plaide pour l'intervention des forces armées pour rétablir la paix dans cette région. Marc Marofimbo pour plus de détails.
La société civile du groupement de Bassomadi précise que c'est depuis 2 semaines qu'un groupe armé non encore identifié a lancé une série d'attaques contre les positions de la milice Union des Patriotes pour la Libération du Congo, UPLC, dans le village d'Engazi et de ses environs. Les dernières attaques ont été signalées le week-end dernier. Le bilan provisoire est de 6 miliciens de l'UPLC tués, selon nos sources. Conséquence, les habitants ont fui d'Engazi pour aller vivre à Kantine et Mabalako, des localités voisines situées à une dizaine de kilomètres de là. Ce mardi, on signalait une nouvelle attaque d'une position de l'UPLC à Mabanga, tout près de la rivière Ebiena, à la limite entre les territoires de Beni et de Mambasa. Cette situation inquiète la société civile de Bassomadioué. Justin Kavala Mipaluku, son président, demande aux forces de défense d'intervenir pour rétablir la paix dans cette région et épargner ainsi des vies humaines. Nos efforts pour avoir la réaction des autorités compétentes dans la région à ce sujet sont restés vains. Signalons que le village d'Engazi est une entité agricole et minière dans la partie ouest du territoire de Beni. Marc Marofimbo, Beni, Radio Kapi.
La MONUSCO Beni va accompagner le nouveau gouverneur du Nord Kivu dans l'exercice de ses fonctions. Abdourahmane Ganda, chef du sous-bureau de la MONUSCO à Beni, l'a affirmé hier à l'issue de sa toute première rencontre avec le général Évariste Somo Kakule, installé provisoirement dans la ville de Beni. Selon Abdourahmane Ganda, la mission onusienne travaillera main dans la main avec le gouverneur du Nord Kivu dans le cadre de la protection des civils. Abdourahmane Ganda est au micro d'André Kitenge.
Nous avons déjà exprimé vraiment notre compassion à l'ensemble de nos frères et sœurs congolais au nom de la représentante spéciale de l'ensemble du système des Nations Unies ici et au nom du bureau de Beni. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, nous avons élaboré notre méthode de travailler ensemble pour protéger la population. Les FRDC, la force de la MONUSCO dans sa globalité, la PNC, plus le gouverneur vont travailler ou continueront à travailler main dans la main pour protéger la population dans le Grand Nord. Nous avons élaboré, nous avons exposé au gouverneur le plan que nous avons. Il a accepté, il a apporté tout son appui. Et le troisième point, nous allons accompagner le gouverneur et l'ensemble des services pour bien s'installer à Beni. Notre souhait est qu'il puisse retourner le plus tôt possible à Goma, prendre ses fonctions. Mais en attendant, ensemble, nous allons créer les conditions logistiques pour qu'il puisse travailler.
Rendons-nous à présent dans la province de l'Ituri. 10 personnes tuées, des maisons incendiées et des biens pillés. Bilan encore provisoire de l'incursion hier mardi des rebelles des ADF dans la partie sud du territoire d'Irumu. D'après des sources sur place, ces chiffres portent à 100 le nombre des civils tués en 4 jours dans cette zone où des opérations militaires sont pourtant en cours. La société civile locale et des notables communautaires parlent d'inefficacité des opérations conjointes FRDC-UPDF contre les ADF. Ezekiel Mouzalia.
C'est depuis environ 4 jours que les rebelles des ADF ont intensifié les attaques contre les civils, en majorité des agriculteurs ainsi que des retournés dans la partie sud du territoire d'Irumu sur la route nationale numéro 4 entre Komanda Luna. Selon des sources locales, ces rebelles sont venus de la forêt mardi par des petits groupes pour s'attaquer aux civils. Ils ont surgi en tirant plusieurs coups de feu, ce qui a créé une panique générale dans 3 localités voisines dont Kangatiro, Butumai et Lulueba à Ido au centre. Les sources sécuritaires avancent un bilan de 9 civils brutalement tués dans leur champ, dont 3 pygmées abattus sur place à l'armée blanche. Ce bilan pourrait s'alourdir, prévient la société civile, qui explique que plusieurs personnes sont portées disparues. 4 autres corps des civils tués par ces mêmes ADF ont été retrouvés la veille dans les villages de Kazaro, à l'ouest de Bouanassoura. L'ONG Convention pour le respect des droits de l'homme, CRDH, indique que 100 civils ont déjà perdu la vie depuis le début de cette semaine dans cette zone. Nous n'avons pas réussi à joindre le porte-parole des opérations conjointes ni l'administrateur du territoire d'Irumu à ces sujets. Bounia, Ezekiel Muzalia, Radio Okapi.
Et puis ce message du commissaire provincial de la police nationale congolaise en Ituri. La situation sécuritaire au Nord Kivu doit beaucoup éveiller la conscience des policiers à jouer parfaitement leur rôle de garantir la protection des civils en Ituri. Message lancé hier mardi par le général Ngoï Sengeloa au cours d'une parade organisée au terrain Kindia dans la ville de Bunia. Il a appelé les commandants des différentes unités de la police à jouer efficacement leur rôle qui est de protéger la population. Pour lui, tous les moyens sont mises en place pour contenir la menace de l'ennemi. Il appelle aussi la population à continuer à collaborer avec les services de sécurité pour étouffer tout plan de déstabilisation de la ville. On écoute le général Ngoï Sengeloa, joint au téléphone par Ezekiel Muzalia.
Quand le Nord Kivu est touché directement, Ituri est vidé parce que nous sommes une province voisine. Nous devons affûter nos armes pour sécuriser davantage la population de l'Ituri. Nous voyons ce qui se passe au Nord Kivu. Donc il faudrait pas que nos policiers disent qu'ils étaient pas au courant. Nous voyons ça. Et par rapport à ce que nous voyons, nous devons mettre nos hommes en alerte maximale. Le plus souvent dans une crise, ce n'est pas toujours les difficultés techniques, mais c'est l'impréparation des esprits. Si les esprits sont préparés, on peut faire quelque chose. Pour nous, c'est de considérer cette population comme partenaire et que la population considère la police comme partenaire. Avec un partenaire, on échange. Voilà, tout ce que nous demandons, c'est la collaboration.
Dans l'ouest du pays, un conflit foncier a éclaté entre la ville de Kikwit et le territoire de Bulungu dans la province du Kwilu. Selon le chef de division provinciale de l'intérieur et sécurité, la ville de Kikwit dans son extension est allée au-delà de ses limites. André Guipoy indique que cette limite doit être respectée jusqu'à nouvel ordre. En attendant l'intervention des techniciens au niveau national, il invite les deux parties en conflit au calme. André Guipoy, chef de division provinciale de l'intérieur et sécurité du Kwilu, l'a dit à Irène Mbomaluzu.
Le conflit entre la ville de Kikwit et le territoire de Bulungu, c'est un conflit réel. Vous savez, quand vous êtes à Kikwit, vous dépassez Kikwit 3, la petite rivière là qui est juste un pont qui est là avant de monter, ce qu'on appelle Kikwit 4. La ville de Kikwit s'arrête là. Sur le papier, c'est ça qui est dit. Alors maintenant, quand Kikwit, ou les communes de Kikwit traversent pour aller de l'autre côté de ces petits ruisseaux-là, ils sont déjà dans le territoire de Bulungu, dans le secteur Kibuka. De l'autre côté, il y a aussi ce conflit entre le territoire de Bulungu à travers le secteur Imbongo et la ville de Kikwit. Moi, je comprends qu'avec l'expansion de la ville de Kikwit, on a tendance à avancer, à aller vers le territoire voisin. C'est ça qui crée ces conflits-là. Les limites entre les entités, ce n'est pas que vous vous réveillez un matin comme ça, vous créez votre limite. Non, non. Les limites sont créés à partir des actes qui créent ces entités. Il faut d'abord respecter ça, à moins qu'il y ait changement. Mais sinon, pour l'instant, il faut s'arrêter là où la loi vous demande de vous arrêter. Il faut que les gens se calment avant que Kinshasa prenne une dernière décision. Mais je demande aux deux entités de garder le calme et que le travail technique se fasse.
Dans le chapitre de la santé, l'humanité a célébré hier, 4 février, la Journée mondiale contre le cancer. Cette maladie continue à faire de nombreuses victimes à travers le monde. Faute des dépistages précoces et des moyens financiers, de nombreuses personnes en meurent en RDC. Pourtant, il est possible de guérir du cancer. C'est ce qui ressort de la cérémonie organisée hier à l'INPS à Kinshasa. Elle a réuni le ministère de la Santé et plusieurs organisations de lutte contre le cancer, notamment la LINAC, le Centre national de lutte contre le cancer, le 199 ainsi que la Fondation Roche. Un reportage de Nancy Tambo, Gloria Lutula et Elise Kavira.
Le cancer reste curable quand il est diagnostiqué à temps, d'où la nécessité de se faire dépister tôt et dans des structures appropriées. En République démocratique du Congo, la prise en charge du cancer repose dans la majorité des cas sur des familles, ce qui finit souvent par l'essoufflement financier de celles-ci. Pour améliorer l'espérance de vie, le docteur Chimpi, directeur intérimaire de la Ligue nationale anti-cancer, estime qu'il faudrait renforcer la prise en charge et augmenter la couverture de la santé universelle.
Pour améliorer cette espérance de vie, il nous faut lutter contre ces maladies qui dévorent la population. Le cancer en fait partie. Et la Ligue nationale, l'objectif qu'elle a, c'est de faire en sorte que cette maladie puisse être prise en charge. Une prise en charge globale, gratuite, à 100%. Ça doit être une détermination de tout moment.
Karina Nikia, survivante du cancer, apporte une lueur d'espoir aux autres malades.
En 2022, j'ai été diagnostiquée d'un cancer du sein. J'ai suivi la chimiothérapie à l'étranger pendant 6 mois. Essoufflée, je suis rentrée à Kinshasa. Notre plaidoyer ici serait que, avec le programme de la santé universelle, que les examens soient également pris en charge.
À travers son secrétaire général présent à ce programme, le ministre de la Santé a promis son appui aux structures qui luttent contre cette maladie.
Dans la province de la Tchopo, le VIH-Sida est un véritable problème de santé publique. Plus de 14 100 personnes sont affectées par cette pandémie et sont placées sous antirétroviraux. Le secrétaire exécutif du PNMLS dans la Tchopo l'a révélé ce mercredi à Radio Okapi au cours d'une interview sur l'état des lieux de cette pandémie dans cette province. D'après Christine Sefou, chez les jeunes, la situation est encore plus alarmante, faute de sensibilisation. Il est au micro déjà que Moukonkole.
De ces 23 zones de santé, il y a 14 051 PVV qui sont mis sous ARV. De ces 14 051, au moins 65% sont des femmes. Et la prévalence du VIH chez les femmes enceintes est de 4%. Quand nous regardons parmi les 23 zones de santé, 5 ce sont des zones de santé urbaines. Donc la ville de Kisangani. Et parmi le nombre là de PVV, au moins 70% se retrouve ici dans la ville de Kisangani et particulièrement dans la zone de Kabondo, Makiso et Tchopo et les autres. Donc c'est Kabondo qui est en tête suivi de Makiso.
Par rapport aux jeunes, quelle est la situation?
Je dirais que les jeunes, en tout cas, la situation est alarmante. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer cela. Bon, nous voyons, la plupart des jeunes, ils ne connaissent pas les modes de transmission et les moyens de prévention au VIH. Pourquoi? C'est puisque la sensibilisation ne se fait plus.
Actualité internationale.
Au Niger, le gouvernement de Niamey demande au comité international de la Croix-Rouge, CICR, de quitter le territoire. Niamey ordonne donc avec effet immédiat la fermeture des bureaux du CICR et le départ de son personnel expatrié. Aucune raison n'a été donnée pour expliquer cette décision. Le CICR est présent au Niger depuis 35 ans. Un traitement similaire a été réservé à l'ONG française Acted et à sa partenaire nigérienne APBE il y a moins de 3 mois.
L'invité.
L'invité de Radio Okapi est Maître Carlos Ngwapichi, avocat de Jean-Jacques Ouondo. Cet expert militaire belgo-congolais libéré hier par la justice militaire à Kinshasa, condamné en première instance puis en appel à la peine de mort, Jean-Jacques Ouondo est enfin libre pour suivre des soins de santé. Rappelons que cet expert militaire est poursuivi par la justice militaire congolaise pour sa participation présumée dans l'affaire de la tentative de coup d'état manqué du 19 mai à Kinshasa. Pour parler de sa libération, Radio Okapi reçoit son avocat, Carlos Ngwapichi, s'entretient avec Jeff Ngoy.
Maître Carlos Nguapichi, bonjour.
Bonsoir, Monsieur Jeff Ngoyi.
Par quel mécanisme votre client, Jean-Jacques Ondo, a-t-il été libéré alors qu'il a été condamné à la peine de mort en appel par la haute cour militaire et qu'il ne s'est pas pourvu en cassation? Par quel mécanisme il peut recouvrer aujourd'hui sa liberté?
Alors, pour répondre à votre question rapidement, je vous rappelle que l'arrêt rendu par la cour militaire de Kinshasa Gombe est intervenu le 26 janvier 2025. Ce qui signifie que le pourvoi en cassation en matière pénale a un délai de 40 jours. Aujourd'hui, nous sommes les 4 février, donc Jean-Jacques Ondo est encore dans les délais de ses pourvois en cassation. Alors, s'il a été libéré, il faut noter que c'est suite à son état de santé. Les autorités pénitentiaires et politiques du pays ont apprécié notre demande qui date de depuis très longtemps. On attendait les rapports de différents médecins qui ont effectivement confirmé que son état nécessitait un transfert dans un centre hospitalier de la place soit à l'étranger pour des soins appropriés. Troisièmement, l'arrêt qui a été rendu n'est pas irrévocable. C'est un arrêt qui est susceptible de voir des recours, entre autres la cassation et pourquoi pas la révision. Et donc à ce titre, Jean-Jacques Ondo peut toujours bénéficier de la liberté provisoire ou soit peut toujours être transféré dans un centre hospitalier de la place ou à l'étranger pour suivre des soins.
Carlos Nguapichi, votre client Jean-Jacques Ondo a été déchargé par plusieurs témoins lors du procès en première instance, comme on appelle. Est-ce pour dire qu'il reste innocent?
Jean-Jacques Ondo, il estime qu'il est effectivement innocent dans la présente affaire. Et donc, il reste disponible pour affronter la justice jusqu'à ce qu'il sera totalement lavé parce qu'il est effectivement innocent.
Est-ce que maître, la politique l'a emporté sous le droit, comme vous disiez lors de sa condamnation en appel, qu'il s'agissait juste d'un acharnement politique?
Alors, la thèse selon laquelle le procès de Jean-Jacques Ondo était politique se justifie par le fait que nous sommes devant un juge où le ministère public n'apporte aucune preuve établissant la culpabilité du prévenu. Mais vous êtes surpris par sa condamnation. Et donc, nous sommes en droit de considérer que ce procès-là devient politique. C'est comme qui dirait, un juge politique condamne même en cas d'absence de preuve, alors qu'un juge judiciaire acquitte en cas d'absence de preuve.
Est-ce que cette libération est-elle assortie des conditions? Après les soins de santé, votre client va-t-il retourner au pays pour poursuivre son affaire devant la Cour de cassation?
Monsieur Jeff Ngoy, il faut noter que les prévenus ou les détenus qui sont à la prison sont à la disposition des autorités pénitentiaires. Et à ce titre, lorsque l'un d'eux tombe malade, ces derniers ont le pouvoir, ensemble avec l'auditorat, de pouvoir transférer les détenus, disons, devant un centre hospitalier pour les soins. Mon client est toujours à la disposition de la justice congolaise et à chaque fois que cette dernière aura besoin de lui, il viendra pour continuer à se défendre. Et donc, dans les cas d'espèce, comme il va se pourvoir en cassation, mon client reste disponible et il va comparaître devant la cour de cassation parce qu'il est innocent et il n'a pas peur d'affronter notre justice. Voilà.
Maître Carlos, je vous remercie.
C'est par ici que prend fin ce journal présenté par Noëlla Luzitu Kabambi dans une mise en onde de Dieudonné Nyangasa, un journal coordonné par Blaise Shindani Kambala. Je vous retrouve à 16h heure de Kinshasa pour un autre rendez-vous de l'actualité, le bulletin d'information sur Radio Okapi.